Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Évasion. Nous sommes des élèves de la Fontaine Blanche de la classe 6e et 5e.
Nous avons réalisé une émission sur le thème de la semaine de l'engagement.
On a fait des micro-trottoirs en posant des questions aux professeurs et aux élèves du collège sur l'engagement.
Nous leur avons demandé qu'est-ce que l'engagement pour vous, dans quoi ils s'étaient engagés, pour qui et pourquoi.
Et d'ici quelques minutes, nous vous proposons l'interview de Catherine Alençon, une cycliste qui a participé aux Jeux Paralympiques de Rio.
Nous lui avons posé des questions sur sa carrière, son palmarès et de sa vie de sportive.
Et maintenant, la parole aux élèves.
Nous leur avons demandé qu'est-ce que l'engagement pour vous, dans quoi ils s'étaient engagés, pour qui et pourquoi.
Ça serait de s'engager pour faire quelque chose et de respecter les règlements de celui-ci. Au tennis de table, pour le clé, je m'engage à respecter les joueurs et le règlement.
L'engagement, c'est s'engager dans quelque chose, c'est faire quelque chose. Comme moi, j'ai été au CMJ de Plougastel, je me suis engagée à participer, par exemple, au secours populaire ou à créer des activités. Faire plusieurs... on avait plusieurs commissions et fallait faire plusieurs devises.
Déjà, c'est de tenir ce qu'on dit. Quand on s'engage, c'est aussi pour des bonnes causes. Enfin, la lutte contre la faim, la lutte contre l'eau aussi, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'eau. Et contre la pollution.
Quand on s'engage dans quelque chose, c'est qu'on s'y tient et qu'on fasse des choses pour cette association ou dans ce qu'on s'est engagé. J'aimerais bien pour des associations, des trucs comme ça, mais pour l'argent, j'ai pas encore beaucoup d'argent, donc je peux pas trop, mais je pense que quand je serai grande, je m'engagerai dans des trucs d'association.
À ton avis, quel type de cause les jeunes de notre âge pourraient-ils s'engager ?
Dans des peut-être des associations où on fait des... Non, pas des dons. Non, des dons du sang, on est trop jeune, je crois. Pour les dons du sang, c'est un don du sang.
À votre avis, pour quel type de cause les jeunes de notre âge pourraient-ils s'engager ?
Pour les enfants. Pour les enfants qui souffrent de malnutrition.
Par exemple, être délégué ou dans une association ou auprès des gens, à être là pour les autres, on dit qu'on est là pour les autres et respecter, être délégué de classe, c'est être là pour ses camarades de classe et on les aide dans leur scolarité et aussi on est le porte-parole au niveau avec les profs.
Donc l'engagement, c'est quand on va engager quelqu'un à venir vraiment, à s'engager à une cause, à une chose. Moi, je suis engagé au CMJ depuis 2 ans, c'est bientôt la fin de mon mandat. Donc en ce moment, on organise une soirée avec le CMJ, donc c'est vraiment un engagement qu'on doit faire, voilà.
On a fait des micro-trottoirs en posant des questions aux professeurs du collège sur l'engagement.
Trouvez-vous que les jeunes s'engagent assez de manière générale ?
De manière générale ? Les jeunes de votre âge, c'est un petit peu juste, mais vous pouvez, effectivement, il y a pas mal de jeunes, notamment sur Plougastel, qui s'engagent au niveau du conseil municipal des jeunes, par exemple. C'est aussi un engagement.
Pour quelle cause sera-t-il important de s'engager ?
Toutes les causes qui nécessitent notamment d'être solidaire. Je pense que quand on peut le faire, il faut essayer de s'engager. Et de rester engagé, parce qu'il ne faut pas s'engager pour un temps court et puis après abandonner. Quand on s'engage, on prend des responsabilités, surtout vis-à-vis des autres qu'on va aider. Donc il faut que ce soit pérenne.
Être prof, est-ce un engagement ?
Oui, si on veut. On s'engage effectivement à essayer d'apporter le plus possible d'outils aux élèves pour qu'ils s'en sortent. Donc effectivement, on s'engage quelque part. Oui, évidemment.
D'accord.
C'est un métier, c'est pas un engagement quand même tout à fait identique par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure.
Est-ce que vous êtes déjà engagé dans quelque chose ?
Alors, dans quelque chose, dans des associations, oui, pour par exemple le franco-allemand, tout ce qui est attrait entre les relations entre l'Allemagne et la France. C'était par rapport à ma formation. J'étais professeure d'allemand, donc je voulais encourager aussi l'enseignement de l'allemand. Et donc j'ai familiarisé des élèves à la culture allemande.
Pour quelle cause serait-il important de s'engager ?
Alors par rapport à un engagement solidaire, hein, par rapport à la pauvreté dans le monde, hein, c'est vrai que si j'avais un petit peu plus de temps, et peut-être que je le ferai d'ici peu, hein, j'aimerais bien m'engager dans des associations qui luttent contre la pauvreté dans le monde et en France aussi.
Pour quelle cause serait-il important de s'engager ?
Je pense qu'il y a beaucoup de causes sur lesquelles on pourrait s'engager, que ce soit des causes écologiques ou des causes par rapport à la faim dans le monde. Mais là, j'ai pas d'exemple de cause la plus importante qu'une autre.
D'accord.
Trouvez-vous que les jeunes s'engagent assez de manière générale ?
Bah oui, j'ai l'impression, mais il faudrait encore plus, ça serait mieux.
Être surveillant et son engagement.
En quelque sorte, oui. En quelque sorte, tout à fait. On travaille pour les jeunes, on essaye d'être à votre service, entre guillemets. Des fois, vous avez l'impression qu'on est là pour faire de la discipline pure et dure, mais c'est pas que ça. On est là aussi pour répondre à toutes vos questions, vous aider, régler vos problèmes. Donc, c'est un vrai engagement.
Venez d'écouter le micro-trottoir réalisé au collège de La Fontaine-Blanc. Nous avons adoré interviewer les élèves. Ceux qui ont répondu beaucoup à nos questions sont ceux qui sont déjà engagés.
Mais je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'élèves engagés. Cela m'a beaucoup surprise. C'était plus difficile d'interroger les professeurs, ils étaient très occupés.
Mais ceux qui ont pu nous répondre ont dit beaucoup de choses intéressantes.
Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Katel Alençon, une cycliste de haut niveau en handisport.
Elle a représenté la France aux Jeux paralympiques à Rio. Elle est venue nous parler de son parcours depuis son accident et de son engagement.
Nous sommes avec Katel Alençon, cycliste qui a rejoint récemment l'équipe Cofidis, pour nous parler de son engagement et de sa carrière de sportive. Elle a notamment participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Bonjour Katel Alençon. Nous avons de nombreuses questions à vous poser sur votre carrière, votre engagement et votre manière d'appréhender votre sport.
Débutons par des questions autour de votre vie de sportif de haut niveau. Est-ce que vous avez une idole dans le cyclisme ?
Alors bonjour, mon idole dans le cyclisme, alors je sais pas trop, il y a beaucoup de cyclistes que j'admire. J'admire Peter Sagan, comme je pense tous les cyclistes. Après, j'aime beaucoup Romain Bardet, j'aime bien... il y a plein de cyclistes que j'admire. Après, j'ai pas un idole particulier, il y a plein de genres de cyclistes que j'aime beaucoup.
D'accord. Pourquoi le cyclisme sur route et pas en piste ?
Alors, je fais aussi de la piste, je suis beaucoup moins bonne en piste surtout. Je fais de la route, du contre-la-montre. Là, au jeu, j'étais qualifiée sur la route et le contre-la-montre et pas sur la piste, parce que j'en fais beaucoup moins, qu'on a... pas les infrastructures qu'il faut en Bretagne pour pouvoir progresser suffisamment sur la piste. Ça va peut-être venir, j'espère. On n'a pas de piste en bois, donc on ne peut pas progresser en hiver. Or, nos championnats de France et après les championnats du monde sont au mois de janvier et au mois de février et mars. Donc du coup, on n'a pas... ici, en hiver, on ne peut pas s'entraîner comme il faut pour progresser en piste. Donc j'ai pas les infrastructures qu'il faut. Maintenant, j'aime aussi beaucoup la piste, j'en fais, mais plus pour ma préparation sur la route.
Est-ce que c'est plus dur de pédaler avec une prothèse ?
Alors oui, c'est beaucoup plus dur de pédaler avec une prothèse. Après, au départ, j'ai fait sur un pied. Sur un pied, c'est très très compliqué parce que forcément, au niveau de la fatigue, c'est compliqué. Après, au niveau du pédalage avec la prothèse, j'ai beaucoup moins de force que si j'avais deux jambes. J'ai 10% de force par rapport à une jambe normale. Donc c'est très peu. Maintenant, la prothèse, elle aide quand même beaucoup et elle me permet quand même de pouvoir suivre, certes pas de gagner des courses parmi les filles qui ont deux jambes, mais au moins de pouvoir les suivre presque jusqu'à l'arrivée.
Pouvez-vous nous expliquer les différences catégoriques dans votre sport ? Vous participez aux compétitions CA ?
Ah oui, je participe en compétition en WC4. Bon, c'est pas les toilettes, hein, les WC. C'est juste ma catégorie. Alors, il y a 5 catégories d'handicap chez les solos. Chez les solos, c'est les gens qui pédalent donc sur un vélo normal avec donc deux roues et tout ce qui va avec. Alors du coup, plus le chiffre est petit, plus on est handicapé. Donc ça va de 1 à 5. Le chiffre 1, c'est les personnes qui sont atteintes des 4 membres. Le chiffre 2, c'est le pédalage sur une jambe, ou par exemple le type d'handicap comme les hémiplégies, donc paralysie de tout un côté du corps. Après, les C3, c'est un peu le même genre d'handicap que le mien, mais avec un moignon qui est un peu plus abîmé que le mien et qui... et puis bon, c'est un autre type de prothèse. Et après, il y a ma catégorie. Et au-dessus de ma catégorie, il y a les C5 qui sont, elles, atteintes, elles ou eux pour les garçons, atteintes du membre supérieur. Donc ça peut être une agénésie du bras, donc une naissance avec un petit bras, ou alors ça peut être aussi une amputation de la main ou de l'avant-bras.
Nous avons quelques questions personnelles par rapport à votre handicap. Comment avez-vous vécu votre amputation ?
Alors pour moi, l'amputation, c'est vécu de manière très heureuse, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai eu 5 ans de maladie avant et 5 ans de maladie très très compliquée, avec un pied qui était dans un état catastrophique, avec des nécroses osseuses et cutanées, donc des grosses infections au niveau des os et de la peau. Et au final, pour moi, l'amputation a été une délivrance parce que la douleur a disparu le jour de l'amputation, et ça, c'est que du bonheur. 5 ans de fauteuil, ça laisse des marques. Et pour moi, l'amputation, ça a été une délivrance. Et avant tout, je pense que l'amputation m'a sauvé la vie. Et donc, c'est pas du tout. Pour moi, ça n'a pas du tout été un drame dans ma vie, mais plutôt une délivrance.
Est-ce que vous ressentez les symptômes du membre fantôme ?
Alors personnellement, je n'ai pas trop de douleur du membre fantôme, j'ai juste un petit peu, ça arrive quand j'ai pas la prothèse, quand il fait nuit, le soir dans mon lit, ça arrive que je ressente un orteil ou un talon, mais par contre j'éprouve pas de grosses douleurs, on va dire que j'ai beaucoup moins mal que quand j'avais mon pied, donc du coup c'est juste des petits, je ressens des petits morceaux de mon pied, mais c'est plus une gêne qu'une grosse douleur.
Dans votre vie quotidienne, quelles sont les choses qui changent ?
Alors, les choses qui changent, on va dire qu'il y a beaucoup de choses à changer par rapport à quand j'étais malade. On va dire que tout s'est simplifié parce que c'est vrai que quand on est en fauteuil roulant, que tous les accès sont compliqués, qu'on a tellement mal qu'on espère que une mouche ne viendra pas se poser sur son pied. Mais là, oui, tout est compliqué. Par contre, depuis que je suis amputée, j'ai réappris à vivre pratiquement normalement. Après, c'est sûr, le soir, je suis en fauteuil roulant. Il y a des petits soucis dès qu'on a une petite plaie ou dès qu'on ne peut pas mettre la prothèse. Donc, on se retrouve en béquille ou en fauteuil. Mais bon, c'est des petits inconvénients. On va dire que c'est pas trop méchant par rapport à ce que ça a pu être. Maintenant... au jour d'aujourd'hui, si je dois dire qu'il y a des choses que je peux pas faire, je saurais même pas vous dire quoi, à part peut-être taper dans un ballon de foot, peut-être. Puis de toute façon, j'aime pas ça, donc c'est pas grave. Après, faire de la danse classique, je pourrais pas non plus, mais c'est... Voilà, on fait autre chose pour oublier que ça, on peut pas le faire. Maintenant, moi, tout ce qu'on m'a dit qui était impossible de faire, j'ai décidé que je pouvais le faire et je fais tout pour le faire. Donc moi, si on me dit que les médecins m'avaient dit que je marcherais plus, j'ai décidé que je remarcherais. Les médecins m'avaient dit que je referais pas de vélo, je fais du vélo. Les médecins m'avaient dit que je ferais plus d'escalade, je refais de l'escalade. Donc au jour d'aujourd'hui, je veux pouvoir tout faire pour que ma vie elle soit heureuse.
Vous êtes une sportive de haut niveau et vous vous engagez pour faire reconnaître votre discipline et vous participez à faire changer le regard des autres sur les handicaps. De quelle manière vous vous êtes engagée pour défendre la cause du handisport ?
Alors déjà, il faut comprendre une chose, le handisport, pour moi, c'est avant tout du sport. Donc les personnes handicapées, oui, certes, il y a un handicap, mais je considère qu'une personne qui fait une grosse dépression est autant handicapée, voire beaucoup plus handicapée que moi. Le terme de handicap... C'est subjectif parce que la personne handicapée, c'est tout simplement une personne normale avec un petit bout en moins ou avec une difficulté pour faire une chose. Maintenant, le handisport, on est des sportifs de haut niveau avant tout. On s'entraîne autant, voire plus que certains valides. Et on fait tout pour être au niveau quasiment des valides, même si on sait très bien qu'avec un handicap, c'est plus compliqué d'arriver à faire certains chronos. Maintenant, le handisport reste du sport avant tout, et les personnes handicapées restent capables de grandes choses, je pense. Et voilà, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut tout faire pour pallier au handicap et puis être le plus normal possible et faire tout pour que ce handicap, il disparaisse pas, mais qu'il soit pas un frein dans la vie de tous les jours.
Pouvez-nous parler de l'association Handisport ?
Alors l'association Handisport, moi je suis licenciée à Handisport Brest, donc Handisport Brest c'est une association qui regroupe plusieurs types de handicap, donc et plusieurs sports aussi, parce que contrairement à une fédération valide, par exemple on va parler de la fédération valide de cyclisme, la FFC, donc la FFC ça représente un seul sport. Nous la fédération Handisport, elle représente beaucoup de sports pour beaucoup de handicaps différents, donc faut savoir que c'est une fédération multisport. Donc ça permet aux gens qui ont un handicap de pouvoir pratiquer plusieurs sports, que ce soit en compétition ou en loisir. Et moi, la fédération Handisport, Handisport Brest m'a beaucoup aidé à pouvoir évoluer dans mon sport et puis dans la performance aussi, parce qu'ils m'ont permis d'aller en compétition, ils m'ont permis de pouvoir acquérir du matériel de pouvoir acquérir du matériel qui est quand même de qualité. Donc c'est quand même génial de pouvoir être dans des clubs comme ça qui nous permettent d'évoluer de belles manières.
Participez-vous à la vie des instants sportifs de votre sport comme la Fédération française du cyclisme ?
Alors moi personnellement, là cette année j'ai fait le choix de m'investir au niveau départemental et régional, donc pour les jeunes surtout, parce que c'est les jeunes que je connais le mieux, on va dire que je suis investie au niveau des écoles de cyclisme depuis beaucoup beaucoup d'années. Et là cette année donc je suis rentrée au comité départemental 29 de cyclisme, donc là j'ai pris la vice-présidence du comité et je suis responsable de tout ce qui est jeune, donc la commission jeune. Et pareil au niveau régional, donc j'ai intégré la commission régionale de cyclisme jeune, donc école de cyclisme. Et au niveau comité régional handisport, donc j'ai intégré aussi le conseil d'administration cette année pour pouvoir un peu m'investir dans toutes les instances qui sont un petit peu au-dessus de moi.
Est-ce que ça a changé votre vie de participer aux Jeux paralympiques de Rio ?
Alors est-ce que ça a changé ma vie ? Non, pas changé ma vie. Maintenant, c'est un événement qui restera à jamais gravé, je l'espère en tout cas. C'est quelque chose qui est extraordinaire à vivre. C'est une aventure top. Maintenant, ça n'a pas changé ma vie dans la mesure où je me suis préparée pour y aller, c'est certain. J'ai tout fait pour pouvoir accéder à cette sélection. Maintenant, tout n'a pas été simple. Tout s'est fait petit à petit. Maintenant, Rio, c'était extraordinaire. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de mes espérances. Donc, les Jeux, j'espère le revivre. Donc, est-ce que je serai médaillée au prochain Jeu à Tokyo ? Je n'en sais rien. J'espère déjà y aller. Et maintenant, si je vais à Tokyo, je vais tout faire pour ramener une médaille. Et là, j'espère que ça changera ma vie. Mais non, ça n'a pas changé ma vie dans la mesure où c'est quand même une aventure géniale. Mais ça ne change pas une vie.
Comment se passait la vie dans le village olympique ? Est-ce que c'était festif malgré le contexte de la compétition ?
Alors, est-ce que c'est festif ? Oui, évidemment, parce que ça reste une épreuve... Où c'est quand même la fête, même si ça n'allait pas tout à fait, on fait pas la fête, on n'est pas dans Rio pour faire la Java, c'est pas ça. On est à Rio avant tout pour un objectif qui est sportif. Donc il y a la cérémonie d'ouverture où là, oui, on fait la fête. Il y a la cérémonie de clôture aussi. J'avais la chance d'avoir mes épreuves en fin de jeu paralympique, donc du coup je pouvais quand même aller à la cérémonie d'ouverture. Donc la cérémonie d'ouverture, c'est quand même quelque chose de grandiose que rentrer dans ce stade avec 80 000 personnes à l'intérieur, c'est juste extraordinaire. Après, dans le village olympique en lui-même, on est concentrés tous sur nos épreuves. Par contre, je peux vous dire que quand les Jeux sont finis, oui, c'est la fête dans le village. C'est vraiment la fête dans le village, on entend les Canadiens à 10 km à la ronde. Non, c'est vraiment... oui, une fois que les Jeux sont terminés, c'est la fête, oui. Mais... tant que les épreuves sont là, on est concentré sur ce qu'on a à faire et sur nos objectifs. Donc on n'a pas le temps d'aller à droite, à gauche, au Club France, à ceci, à cela, pour faire la fête.
Est-ce que vous vous préparez aux prochains Jeux, ceux qui auront lieu à Tokyo ?
Oui, comme j'ai dit, j'espère beaucoup être de la partie à Tokyo. Et cette fois-ci pour un autre objectif, parce que là, j'y allais dans un objectif de découverte et puis de préparation pour la suite. Donc Rio était plus une préparation pour Tokyo qu'un objectif de médaille. Maintenant, je m'étais peut-être mis des objectifs en tête qui étaient un peu trop hauts. Et j'espère qu'à Tokyo, ces objectifs-là, ils se réaliseront. Je n'avais pas un objectif de médaille, mais au moins de top 5. J'espère beaucoup être sur le podium à Tokyo, mais si ça ne peut pas se faire, ça ne se fera pas. Mais j'espère beaucoup être sur le podium.
Comment est-ce qu'on se prépare pour une compétition qui aura lieu dans 3 ans ?
Alors cette année, 4 ans même, parce que là, on vient d'entrer dans l'année post-olympique. Donc du coup, ou post-paralympique, cette année est un peu plus tranquille. Même si j'ai des Coupes d'Europe, j'ai 3 manches de Coupe du Monde, je l'espère les championnats du monde en fin d'année, où j'espère être sur le podium parce que je pense que cette année j'en ai les capacités. Maintenant, cette année va être un peu plus tranquille au niveau des entraînements. Ça va tourner entre 15h et 20h d'entraînement par semaine. Après, les 3 autres années qui vont venir, ce sera un peu plus intense, où là je vais faire tout pour progresser, pour me préparer, pour peut-être en piste justement améliorer mes temps et pouvoir peut-être me sélectionner aussi sur la piste, je l'espère, parce que j'aimerais bien avec l'équipe de France pouvoir un jour faire une vitesse par équipe. Je pense que c'est sympa aussi de pouvoir faire des épreuves en équipe. Donc moi j'espère beaucoup continuer dans ma progression. Là ça fait 3 ans que j'ai commencé le vélo, ça fait 4 ans ce mois-ci que j'ai commencé le vélo. C'était court pour Rio, je pensais même pas y aller au départ. Maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour me préparer beaucoup plus sérieusement pour Tokyo, et c'est vrai que là j'espère continuer ma progression pour aller au plus haut possible.
Merci à vous.
Merci aux personnes qui ont accepté de participer à cette émission: Émilie, Marie, Thomas, Lise, Lomé, Léo et Violaine, Catel Anson, puis les adultes et élèves qui ont participé, et un gros merci à Radio Évasion de nous avoir fait découvrir la radio.
Comme vous l'avez entendu, vous pouvez faire comme Catel, vous pouvez vous engager pour faire changer les choses ou faire changer le regard des autres. Passez une très bonne journée à l'écoute de Radio Évasion.